Le réveillon des pauvres. Dites Périgord, et l'on vous récitera l'inévitable litanie. Truffe, foie gras, cèpe, confit, magret. Mais ce qui est devenu le fonds de commerce des restaurateurs locaux était, hier encore, réservé aux repas de grandes fêtes ou aux tables des nantis. Écrivain militant, Eugène Leroy nous rappelle que, réveillant ou pas, les plus pauvres devaient, au mieux, se contenter d'apaiser leur faim, à 1000 lieues de toute gastronomie.
Un vent âpre s'était levé, faisant tourbillonner la neige qui tombait toujours à force. La campagne déserte était toute blanche. Les coteaux semblaient couverts d'un grand linceul triste, comme ceux qu'on met sur la caisse des pauvres morts. Les châtaigniers, aux formes bizarres, marquaient leurs branches tourmentées par une ligne blanche. Les fougères, poudrées de neige, penchaient vers la terre, tandis que sur les bruyères, la brande et les ajoncs, plus solides, elles s'amassaient par places. Un silence de mort planait sur la terre désolée, et l'on n'entendait même pas le bruit des pas de ma mère, amorti par la neige épaisse. Pourtant, comme nous entrions dans la lande du Grand Castan, un crapaud volant jeta dans la nuit son cri malplaisant qui me fait frissonner.
Cependant, ma mère peinait fort à suivre le mauvais chemin perdu sous la neige. Des fois, elle s'écartait un peu, et le reconnaissant, revenait incontinent, se guidait sur un arbre, une grosse touffe d'ajonc, une flaque d'eau gelée maintenant. Moi, bercée par le mouvement malgré le froid, je finissais par m'endormir sur son échine et mes bras gourds se dénouaient malgré moi.
« Tiens-toi bien, »
me disait-elle.
« Dans un moment, nous serons chez nous. »
Malgré ça, j'avais peine à me tenir éveillée. Lorsque tout à coup, à 100 pas en avant, éclate un hurlement prolongé qui me fit passer dans la tête comme un millier d'épingles. Et je vois une grande bête, comme un bien fort chien, aux oreilles pointues qui gueulait ainsi en levant le museau vers le ciel.
« N'aie pas peur, »
me dit ma mère.
Et, m'ayant donné le falot, elle ôta ses sabots, en prit un dans chaque main, et marcha droit à la bête, en les choquant l'un contre l'autre à grand bruit. Ça n'est pas pour dire, mais lors, j'aurais fort voulu être couchée contre elle, dans le lit bien chaud. Lorsque nous fûmes à une 50aine de pas, le loup se jeta dans la lande en quelques sauts, et nous passâmes, épiant de côté, sans le voir pourtant. Mais, un instant après, le même hurlement sinistre s'éleva en arrière. Qui m'effraya encore plus, car il me semblait que le loup fût sur nos talons. De temps à autre, ma mère se retournait, faisait du tapage avec ses sabots pour effrayer cette sale bête. Mais si ça gardait le loup d'approcher trop, ça ne l'empêcha pas de nous suivre à une 30aine de pas, jusqu'à la claire-voie de notre cour. Ayant pris la clé torte dans la cache, car mon père n'était pas rentré, ma mère fit jouer le loquet de dedans et referma vivement la porte derrière nous. Au lieu du bon feu que nous pensions trouver, la souche était sur les landiers, toute noire, éteinte.
« Ah !»
s'écria ma mère.
« C'est méchant signe. Il nous arrivera quelque malheur. »
En farfouillant sous la cendre avec une brindille, elle trouva quelques braises, sur lesquelles elle jeta un petit fagot de menu bois qui flamba bientôt sous le vent du tuyau de fer qu'elle mit à sa bouche. Lorsque je fus un peu réchauffée, n'ayant plus peur du loup, je dis
« Mère, j'ai faim. »
« Pauvre drôle, il n'y a rien de bon ici, »
fit-elle, pensant au réveillon du château. Et découvrant une marmite, elle ajouta
Te voici une mique.
Tout en mangeant cette boule de farine de maïs, pétrie à l'eau, cuite avec des feuilles de chou, sans un brin de lard dedans et bien froide, je pensais à toutes ces bonnes choses vues dans la cuisine du château. Et je ne le cache pas, ça me faisait trouver la mique mauvaise, comme elle l'était de vrai, mais ordinairement, je n'y faisais pas attention. Oh, je n'étais pas bien gourmand en pensée. Je n'appétais pas la dinde truffée, ni les pâtés, mais seulement un de ces beaux boudins d'un noir luisant.
Pourquoi là-haut tant de bonnes choses, plus que de besoin, et chez nous de mauvaises miques froides de la veille? Dans ma tête d'enfant, la question ne se posait pas bien clairement. Mais tout de même, il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas bien arrangé.
« Il te faut aller au lit, »
dit ma mère. Elle me prit sur ses genoux et me dépouilla en un tour de main. Aussitôt couché, je m'endormis, sans plus penser à rien.
Thank you.